Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Stéphane Van Damme. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous entretenir avec moi à propos de votre dernier livre. Je vous présente peut-être, même si ce n'est pas totalement nécessaire, en quelques mots. Vous êtes professeur d'histoire à l'École normale supérieure de Paris. Vous êtes un grand spécialiste de l'histoire des sciences et plus généralement des savoirs. Sur une période longue qui va de la Renaissance jusqu'au 19e siècle. Et vous pratiquez une histoire des sciences nourrie d'histoire sociale et d'histoire culturelle, voire d'anthropologie aussi. Lorsqu'on consulte la liste de vos publications, on est impressionné par la palette extrêmement large d'intérêts et de compétences. Je mentionnerai uniquement ici trois titres, de trois ouvrages parus à peu près 10 ans d'intervalle à chaque fois, mais qui donnent du coup un aperçu de la richesse de votre trajectoire intellectuelle. Tout d'abord, Descartes, essai d'histoire culturelle d'une grandeur philosophique, paru aux presses de Sciences Po en 2002. Ensuite, Métropole de papier, naissance de l'archéologie urbaine à Paris et à Londres, 17e-20e siècle, paru en 2012 aux Belles Lettres, et puis près de 10 ans plus tard, Seconde Nature, rematérialiser les sciences entre Bacon et Tocqueville, paru en 2020 aux presses du Réel. Mais ce soir, nous sommes là pour parler de votre tout dernier livre, qui a paru il y a quelques mois, qui s'intitule « Les voyageurs du doute, l'invention d'un altermondialisme libertin 1620-1820 ». C'est un livre qui a paru chez Fayard, dans la très belle collection dirigée par Antoine Lilti, qui s'intitule « L'épreuve de l'histoire ». Alors, votre livre étudie la zone d'intersection, je dirais, tout à fait passionnante entre la culture du doute, héritée en grande partie de Montaigne, et la culture de la mobilité, propre à l'Ancien Régime, une culture de la mobilité qui avait été étudiée magistralement par Daniel Roche, dans un livre intitulé « Humeur vagabonde ». Daniel Roche, à qui vous dédiez ce livre, et qui nous a quittés, je crois, à peu près au moment de sa parution. Je vous propose de commencer par quelques questions générales qui permettront de bien cerner votre projet. Et ma première question aura pour objectif d'éviter tout malentendu à propos de ce terme de « libertin » qui apparaît dans le sous-titre de votre livre. Donc ce terme par lequel vous caractérisez l'altermondialisme que vous dégagez dans cet ouvrage, en quel sens faut-il véritablement comprendre ce terme de libertin ?
Merci beaucoup. Alors, je voudrais au préalable commencer par moi aussi formuler quelques remerciements pour cette invitation à dialoguer avec vous. C'est un très grand honneur. Mais aussi remercier la librairie Mola et puis Madame Giacomotto Cara pour son invitation. Si je reprends le fil, évidemment, la catégorie de libertin, c'est toujours, pour un éditeur, une sorte de fantasme qu'avec le mot libertin dans le titre, les ventes vont être décuplées. Mais pour un auteur, il y a une forme d'appréhension à afficher d'emblée, parce qu'effectivement, ça n'est pas une catégorie, si vous voulez, qui est neutre, et ce n'est pas une catégorie forcément positive. Elle a une histoire, et une histoire complexe, parce que c'est avant tout une catégorie polémique à l'époque moderne, qui naît au XVIe, XVIIe siècle, dans des contextes apologétiques, dans des contextes de guerre de religion, dans des contextes de lutte entre orthodoxie et hétérodoxie en Italie, en France, en Angleterre, dans l'Empire, dans le Saint-Empire romain germanique. Il y a dans beaucoup de pays des tensions avec des minorités religieuses. On va essayer de stigmatiser, et souvent on va utiliser une grammaire qui est un peu une grammaire un peu identique. On va stigmatiser leur manière de penser. Souvent on va qualifier cette manière de penser de peu orthodoxe. On va essayer d'utiliser justement un certain nombre de stigmates Ça peut être aussi le qualificatif de débauché, de déniaisé, etc. Donc, on a du mal à faire de cette catégorie une catégorie positive. On ne peut pas dire du libertin qui serait comme le charpentier ou, je ne sais pas, le comédien. C'est ni une profession, ni une catégorie dont on peut se revendiquer. Aucun des libertins dont je parle ne se sont dit un jour « je suis libertin, voilà ma carte de visite ». Et la deuxième chose qui est intéressante à noter sur cette catégorie, c'est que ça a bien été étudié depuis plusieurs décennies par l'historiographie, c'est que c'est plus une posture, si vous voulez, qu'une identité sociale. Ça veut dire que dans certaines circonstances, dans certaines situations, on peut adopter ce manteau, se draper hein, d'une certaine manière du vêtement de libertin, souvent dans des cercles choisis, dans des cercles restreints, etc. On peut adopter cette posture. Voilà. Il va sans dire que donc c'est une posture qui est mobile, volatile. C'est pas vraiment ce qu'on peut. Alors, de manière un peu étrange. Peut-être trompeuse, une historiographie classique que j'aime par ailleurs, celle d'Antoine Adam, de René Pintard, dans l'entre-deux-guerres. Hein. C'est une historiographie française très littéraire d'abord, mais très, très, très ouverte aussi à la philosophie moderne. On essayait un petit peu de. Ils voulaient effectivement cerner un peu plus le phénomène, et donc ont eu tendance un peu à le réifier hein, derrière cette catégorie de libertin érudit. Alors, ils ont d'abord fait une séparation. Bon, nous, ça nous intéresse pas trop le libertinage sexuel, ce qu'on appelait le libertinage de mœurs, etc. Donc, ça, on va le mettre de côté. Par contre, nous, on est des savants, donc ce qui nous intéresse, c'est effectivement plutôt un certain rapport à la nature, un certain rapport philosophique, etc. Donc voilà. Donc c'est difficile en fait de définir le terme comme vous pouvez le voir, en tout cas rapidement. Mais il faut retenir que c'est plutôt une catégorie polémique. Hein. Souvent on a dit inventée par les ennemis des libertins, que sont un certain nombre de religieux, dont on reparlera sans doute des jésuites, mais aussi des magistrats, hein, qui non seulement luttent contre les sorcières, mais aussi contre les débauchés, avec cette peur de la contamination en fait, hein, de cette ce sont des gens qui représentent une menace, la menace de saper l'ordre moral et politique. Voilà. Et c'est surtout parce qu'ils vont avoir, ils sont dans la proximité de grands aristocrates, que la menace se fait de plus en plus pressante. Parce que vous comprenez bien que tant qu'ils restent dans l'univers des tavernes, voilà, c'est pas aussi grave. À partir du moment où on les repère à la cour, dans l'entourage. Quand on dit que Gaston d'Orléans, le frère du roi Louis XIII, serait libertin, etc., là, on commence un peu à paniquer hein, dans le milieu, dans la société cléricale, et on commence effectivement, avec les magistrats, à resserrer le contrôle.
Merci beaucoup pour ces précisions. Venons-en maintenant peut-être à la notion d'altermondialisme, qui est une notion évidemment extérieure à la période étudiée et que vous y importez à des fins heuristiques. Pour que l'on puisse parler d'altermondialisme, il faut qu'il y ait une mondialisation effective ou à tout le moins projetée, fantasmée. Et vous dites bien que l'une des caractéristiques communes aux voyageurs que vous étudiez est, je vous cite, « la critique du globalisme français de leur temps ». La critique du globalisme français de leur temps. Alors, en quoi consiste exactement ce globalisme ou cette mondialisation à la française au XVIIe ou au XVIIIe siècle?
Alors, en fait, c'est vrai que le point de départ... Moi, je suis historien, il faut déjà avoir ça en tête, parce que depuis une vingtaine d'années, on est agité dans le monde des historiens professionnels par tous ces débats autour de l'histoire mondiale. Peut-être que vous avez vu passer il y a quelques années le livre de Patrick Bouchon, Histoire mondiale de la France. Voilà, un peu partout, en Italie, en Allemagne, dans les pays anglophones, on a les mêmes soucis de sortir de ce qu'on appelait un paradigme plutôt national, hein, une historiographie vraiment fondée sur un paradigme national, donc l'histoire de France, voilà. une sorte d'ethnocentrisme. Et donc cette histoire globale s'est imposée un peu comme un grand récit, en fait, très universaliste, mais en même temps assez plat, d'une certaine manière, où on a l'air de neutraliser, d'une certaine manière, les différents projets politiques, économiques, religieux, culturels. Et il m'a semblé important, justement, en regardant le cas français, d'y regarder à deux fois. Alors, ce que moi j'appelle le globalisme français, si on retourne à l'époque moderne, on pourrait le trouver sous l'expression de monarchie universelle, qui est un projet qui apparaît sous le règne de Louis XIV de manière explicite, mais qui en fait est une vieille idée des Européens qu'on retrouve déjà avec les Portugais à la fin du XVe siècle, puis ensuite avec les Espagnols sous le règne de Philippe II à la fin du XVIe siècle. Et donc l'idée, c'est que voilà, on va les grandes monarchies chrétiennes vont essayer d'imposer une universalisation chrétienne du monde. Et donc les Français sont évidemment toujours un peu en retard par rapport à leurs voisins, et en particulier par rapport aux Ibériques, mais aussi par rapport aux Provinces-Unies, aux Hollandais, dans cette entreprise. Donc il y a un effet de rattrapage. Quand Colbert arrive au pouvoir, il décide effectivement véritablement de définir une politique coloniale. Et donc on va avoir cette vision française du monde qui va se traduire par des choses très concrètes, des globes, des cartes, sur lesquelles on va essayer de marquer le territoire, les avancées française. Donc, par exemple, si vous prenez l'observatoire disposé à Paris, l'observatoire royal créé au début du règne de Louis XIV, ils avaient dessiné un planisphère par terre, dans la grande salle de l'observatoire, sur lesquels on plaçait en fait les avancées, alors les expéditions, le mouvement des bateaux de commerce, de pêche, etc. L'idée, c'était vraiment de montrer au roi, lors de ses visites à l'observatoire, voilà l'avancée de ce globalisme français. Donc là, c'est pour dire, l'histoire globale, c'est pas quelque chose qui est qui n'a pas de point de vue, si vous voulez. Il y a des perspectives, il y a des intérêts, il y a des enjeux. Et surtout, c'est une compétition très claire entre différentes grandes nations. Alors, moi, je suis qu'européaniste, donc je parle des nations européennes, mais évidemment, il y a les Chinois, il y a l'Empire moghol, donc indien, etc., etc. Il y a des Japonais. Voilà, le monde est fait, en fait, de multiples projets de globalisation.
Merci. L'un des apports majeurs de votre livre est de montrer que la critique de ce globalisme français, ou tout aussi bien d'ailleurs de l'universalisme catholique, n'est pas seulement le fait de savants de cabinet. Cette critique, elle provient en grande partie du terrain, d'un certain nombre d'expériences de dépaysement, de décentrement, celles de vos voyageurs du doute précisément. Comment expliquez-vous que l'on se soit peut-être montré assez peu attentif jusqu'à présent à cet aspect des choses, à ce qu'on pourrait appeler une sorte de scepticisme de plein vent?
Oui, ça c'est effectivement un très bon constat. Quand on regarde 20 ans ou 30 ans en arrière, quand il y a eu une sorte de renouveau des études sur le libertinage dans les années 90, il y a eu des revues savantes, des équipes de recherche, voilà. Aussi toute une génération de jeunes chercheurs en philosophie, en littérature. Essentiellement, il y a très peu d'historiens, en fait, dans ce mouvement. Chacun a été pris, en fait, dans une historiographie nationale. Les Italiens travaillaient beaucoup sur les archives de l'Inquisition, les Français avec un historien, enfin un philosophe comme Jean-Pierre Cavaillé, par exemple. Ont entrepris comme ça, un peu avec aussi une sorte de ferveur un peu positiviste, on va révéler un continent oublié. Et c'est vraiment l'envers du grand siècle. Enfin, il y a eu toute cette entreprise. Mais finalement, on s'est rendu compte que ça restait finalement des études de cas assez situées. Or, quand on regarde les affaires de libertinage au XVIIe siècle, ce qui est frappant, c'est de voir que ce qu'on stigmatise souvent, c'est la circulation. J'ai dit la contamination. Ça, c'est le point de vue des autorités. Quand on suit ces libertins, bah, ils sont soit en fuite, soit en exil, soit ils sont bannis. Donc, on voit bien que la mobilité, elle est au cœur, je dirais presque, de l'anthropologie libertine. Hein. Elle est vraiment dans la pratique du libertinage. Ça définit une grande partie de cette posture hein, dont je parlais tout à l'heure. Si vous prenez Cyrano de Bergerac, vous voyez que voilà, la question du voyage, elle est intrinsèquement liée à sa vision du libertinage. Donc ça, c'est un premier point. Voilà. Si on reste même au cœur de l'Europe, il y a un jeu d'échelle qu'il faut désormais établir. Ne pas rester confiné à des études nationales. Peut-être essayer justement de prendre mieux en compte des phénomènes de circulation. Donc Jean-Pierre Cavaillé, par exemple, militait dans un article qui s'appelait « Libérer le libertinage », pour passer à l'échelle européenne, par exemple. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est un mouvement intéressant. Mais il y a un mouvement encore plus récent et qui nous vient un peu alors, de vos travaux, mais aussi de travaux de chercheurs ou de chercheuses américaines, parce qu'elles sont des situations postcoloniales aussi, se sont dit, mais quand même, voilà, il y a des libertins, bon, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais il y a des libertins en Nouvelle-France, il y a des libertins dans les Antilles, il y a des affaires de libertinage, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi s'intéresser, alors en relisant nos classiques, en particulier par exemple le jésuite François Garas, on se rend compte qu'effectivement, ça n'avait pas tellement intéressé la critique. Voilà, Louise Godard de Donville, des gens qui sont vraiment qui ont passé leur vie thèse d'État sur plusieurs années, voire dizaines d'années, sur ces sources. Ben, finalement, il y avait une sorte de point aveugle d'invisibilisation de cette question coloniale. Or, le libertin, pour Garas, il a un territoire. Alors, c'est un nomade, c'est une figure errante, etc. Mais il a souvent pour refuge ces espaces coloniaux. Donc voilà. Bon, moi, je suis un peu parti en fait de ces hypothèses en me disant, ben, peut-être faut-il faire une enquête un peu plus systématique, en prenant au sérieux ces sources et en prenant au sérieux la question de la mobilité. Alors, c'est vrai que je suis un élève de Daniel Roche. Alors, évidemment, voilà, il y avait ce côté aussi paradigme de la mobilité. Daniel Roche, il a un petit chapitre dans lequel il évoque la Motte Leveillère, voilà, certains de ces libertins érudits qui ont écrit des traités sur le voyage. Et donc, moi, je me suis dit, je vais compléter. Voilà, ça va être ma mission. Je vais, sur ce chapitre-là, je vais compléter Daniel Roche. Et voilà, c'était un peu un hommage. Et c'est aussi pour ça que je lui ai dédié le livre, parce que, bon, voilà. Une filiation.
Alors, je vous propose qu'on s'intéresse maintenant aux différents champs du savoir dans lesquels se déploie cette pensée critique et subversive des voyageurs du doute. Vous en identifiez trois, en fonction desquels votre livre s'organise. Hein. C'est la structuration même de votre livre qui est commandée par ce triptyque. Pourriez-vous peut-être les caractériser globalement, avant que nous n'entrions ensuite dans le détail de quelques exemples choisis ?
Oui, volontiers. Alors, si vous voulez, comme je l'ai dit, l'idée était de travailler sur la mobilité libertine, en fait. Tout au début, c'était vraiment ça. Et même de faire un petit livre sur la géographie des libertins. Voilà, c'était vraiment... je me suis dit, voilà, ça, c'est bien cadré, c'est bien ciblé. Je ne vais pas faire à nouveau un grand livre, voilà, je ne vais pas m'épuiser. Je vais faire quelque chose de bien cerné. Et je pensais au livre donc il y a un livre d'un auteur, d'un historien connu, qui s'appelle « La géographie des jésuites ». Et je me suis dit, tiens, ben voilà, je vais faire la géographie des autres, des opposants des jésuites. Et donc j'ai commencé un peu à regarder à la fois... leur récit de voyage, leur traité de géographie, puisqu'il y en a quelques-uns. Et puis, plus j'avançais, plus j'ai commencé à réaliser que derrière cette géographie, donc ça, c'est la première partie du livre, on a vraiment tout un ensemble de savoirs hein, qui sont mobilisés pour contester l'ordre de l'information géographique. Parce que ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que parce qu'on a des GPS, parce qu'on a des sciences globales, on a un système d'information globale qui est derrière notre mondialisation. C'est pareil pour les époques anciennes. Simplement, ce système d'information est plus lacunaire, il est plus fragmenté, il est plus partiel. Mais quand Colbert décide de définir cette monarchie universelle, évidemment, la première chose qu'il fait, c'est qu'il crée à Paris une sorte de cabinet où il va recevoir l'information, alors des pilotes de bateaux, des ordres de missionnaires, des marchands, etc. Voilà, parce que si vous voulez ouvrir des marchés, si vous voulez établir des colonies, il faut avoir de l'information, une information la plus précise possible. Or, mes libertins commencent à se dire, attendez. Nous, on est d'accord pour le projet monarchie universelle. Là où on est moins d'accord, c'est que ce projet se fasse sous la coupe des jésuites, qui eux-mêmes sont téléguidés par le pape à Rome. Donc nous, parce que nous, on est des vrais gallicans, on est des vrais Français, on n'aime pas trop, en fait, la Compagnie de Jésus quand elle joue comme ça sur plusieurs tableaux. La Royal Society, déjà à Londres, hein, alors évidemment, ils sont protestants. Donc eux, évidemment, ils ne peuvent pas voir les jésuites. C'est pour d'autres raisons, parce qu'ils sont catholiques. Mais déjà, ils avaient émis des doutes sur le fait d'utiliser les réseaux missionnaires catholiques à des fins de collecte de l'information, en disant « attention, attention, il faut y regarder à deux fois ». Donc, cette première partie, elle est vraiment autour de cette question de la géographie, de l'ordre de l'information, hein, comment ils vont avoir un regard un peu décalé par rapport à toutes ces nouvelles pratiques, la carte, le globe, les récits produits par ces ordres missionnaires, ils vont essayer un petit peu d'en avoir une perspective critique. Donc ça, c'est la première. Puis je me suis rendu compte que ça couvrait qu'une partie, en fait, de la question. Et en particulier, puisque je m'intéressais au savoir produit par ces libertins ou à ces sciences, il fallait peut-être aussi essayer de mieux caractériser la dimension naturaliste de ces savoirs. Et alors, tout à l'heure a été évoqué Dominique Branchet, donc les travaux de Dominique Branchet, qui m'ont beaucoup inspiré. Elle a fait un beau livre sur la botanique libertine, ce qui m'a permis de ne pas traiter de la botanique dans ce livre. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré pour essayer d'explorer d'autres sciences. La géologie, la chimie, l'astronomie, bien sûr, qui sont des savoirs que les libertins vont particulièrement investir, hein. Ce sont aussi des savoirs qui sont investis par les ordres religieux, hein, justement pour montrer ces biais, hein, de lecture et pour essayer d'en avoir une autre interprétation. Dans ce cadre-là, effectivement, ils ont aussi une vision très mercantiliste, hein, de cette globalisation, et en particulier la question des ressources naturelles est un des éléments sur lesquels ils veulent apporter leur réflexion. Voilà. Donc, c'est très intéressant parce qu'il y a un débat sur comment on va rendre ces sciences utiles au projet de monarchie universelle. C'est vraiment ça qui les anime. Et puis, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, tout d'un coup, on réalise que, il n'y a pas que les savoirs naturalistes, il y a aussi le développement de toute une curiosité qui est portée par ces savants sceptiques qui deviennent matérialistes. Alors voilà, il y a plusieurs types de libertinage. Voilà, il va y avoir un libertinage plus sceptique, un libertinage plus matérialiste dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et eux, ils vont avoir une approche plus matérielle, plus attentif à la culture matérielle des sociétés, des civilisations non européennes. Et en particulier, donc, certains d'entre eux vont se faire ce qu'on dirait aujourd'hui archéologues. Disait à l'époque antiquaire, et donc ils vont aller en Italie, ils vont aller au Moyen-Orient, ils vont aller en Inde, hein, pour faire l'archéologie des sites de ces civilisations, avec un regard qui est vraiment là encore très particulier, hein, puisque si on prend le cas de l'Inde, évidemment, les jésuites étaient déjà en Inde, hein, les jésuites avaient déjà commencé à cultiver un intérêt pour les antiquités. Mais qu'est-ce qui intéressait le regard antiquaire jésuite? C'était pas les antiquités hindoues, c'était surtout les anciennes, le primitivisme chrétien, c'est-à-dire en fait les sectes chrétiennes venant de l'Éthiopie qui s'étaient installées dans la péninsule indienne. Donc c'est très intéressant parce qu'ils ont une archéologie qui est une archéologie chrétienne. Or, mes libertins, mes voyageurs du doute, ça, ils supportent pas. Hein. Il faut quand même réhabiliter la grandeur de l'Inde. Ils sont animés quand même par ce souci, cette attention aux autres. Alors, il ne faut pas être naïf, ce n'est pas un altermondialisme d'extrême gauche, parce que c'est plutôt des gens qui sont plutôt très élitistes, hein, c'est plutôt des aristocrates. Ce qu'ils aiment, c'est plutôt les chefs indiens, les empereurs moghols, que la plèbe. Hein, ils ont même des mots assez durs, hein, parfois, avec voilà, sur les sociétés qu'ils visitent. Mais voilà, ils ont quand même cette attention. Hein, il faut vraiment vous replacer dans l'esprit de l'Ancien Régime. Hein, bien sûr, voilà, on est dans des sociétés qui sont inégalitaires. Hein, donc, tout est informé par ça. Hein, le regard... Même je sais qu'on a essayé de transformer récemment le baron de la Hontan, qui est un de ces voyageurs du doute, en promoteur d'une société égalitaire. C'est beaucoup plus compliqué que ça, quand même, hein, parce que la Hontan, ce qu'il aime, c'est discuter avec un chef indien, voilà, à Dario. Voilà, il s'attarde pas trop sur l'Indien ou l'Amérindien ordinaire. Hein. Donc, et c'est un peu pareil un peu partout. Voilà. Si on prend le Siam, ça va être pareil. Ce qu'on cherche à devenir, c'est en fait conseiller du prince. Hein. C'est la figure, c'est le poste, si vous voulez, qui est convoité. Et ce poste, il est souvent occupé par des jésuites. Il faut quand même le dire. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, à travers ces trois altermondialismes, l'idée, c'était un peu de balayer. Alors, c'est vrai qu'il y a une forme de glissement, le centre de gravité évolue parce que c'est plus la géographie sur le XVIIe siècle, et puis ensuite c'est plus le naturalisme est plus central chronologiquement, et puis avec l'archéologie et les savoirs philologiques, c'est plus la fin de la période qui m'intéressait.
Merci, on va le voir précisément en s'intéressant peut-être à trois figures qui... que j'ai choisi et qui représente chacune de façon privilégiée l'un des trois champs abordés, en commençant, si vous le voulez bien, par François Bernier, disciple du philosophe Gassendi, grand voyageur en Orient, tout particulièrement dans l'Inde moghole, dans l'Inde sous domination musulmane. Alors pourquoi Bernier, que vous convoquez à de très nombreuses reprises, est-il si important? En quoi contribue-t-il à l'élaboration de ce que vous appelez, hein, c'est le titre de votre première partie, justement, une map monde sceptique?
Alors, c'est vrai que Bernier, comme vous savez, c'est Monsieur Tinglis, c'est le grand spécialiste de Bernier, entre autres choses, qui nous a donné donc une édition critique très précieuse. Évidemment, alors d'abord, il y a peut-être, si on rentre dans l'atelier de l'historien, effectivement, dans cette enquête, il fallait d'abord commencer aussi par ces grandes figures, même si elles sont pas forcément connues du grand public, elles ont été particulièrement travaillées. On a de la bibliographie, on a des éditions, on a, comme c'est toujours le cas pour les périodes anciennes, quand un personnage est connu, c'est qu'il a quand même laissé des archives. Donc on a des archives, etc. Il y a une densité de l'information qui fait que, avec certains personnages, Lamotte le Veillère, Fontenelle, vous allez avoir de quoi faire. Hein. Vous allez avoir de quoi, travailler. Donc ça, c'est la première élément de réponse. Évidemment, si on revient à Bernier, c'est un personnage charismatique. Parce qu'il a produit évidemment ce récit de voyage qui est un drôle de récit quand même, hein, qui est Voilà, là on entre peut-être, ben, vous pourrez me corriger ou ajouter, on entre aussi dans un autre élément dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, c'est qu'on a affaire à des auteurs, on a affaire à des gens qui écrivent, qui ont des pratiques d'écriture, qui ont des stratégies d'écriture, qui écrivent avec des destinataires multiples et variés. Et ça, on sent vraiment ça chez Bernier. Il a une manière de composer son récit qui n'est pas du tout simple, si vous voulez. Hein. Il le fait en partie sous la forme d'un rapport qu'il adresse à Colbert, et puis ensuite sous forme de lettres. Et donc, ce qui nous est donné à lire, c'est ce texte composé, assez finement écrit avec des intentions très précises. En fait, ces personnages, ces destinataires font partie d'un cercle. Clairement, là, on a ce qu'on appelle un peu la machine coloniale. On a ces entrepreneurs, en fait, de ce premier empire, hein, qui sont là, qui se posent des questions, il faut bien le dire, parce que ce n'est pas joué dans les années 1650, 1660. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette idée de projeter la France en dehors de l'Europe? Est-ce que c'est une bonne idée, etc. On n'a pas encore de réseau consulaire, on n'a pas encore d'ambassade. Voilà, on n'a pas grand-chose. On a une petite flotte. On est un grand pays en Europe, mais... Sur les océans, etc., on est bien derrière l'Angleterre et les Provinces-Unies, hein, qui avaient pris ce tournant dès la fin du XVIe siècle, de construire des bateaux, de s'orienter, de se projeter vers l'Asie en particulier, donc, ou les Amériques. Alors là, c'est vrai que Bernier nous offre cette plongée quasi ethnographique aussi dans un monde qui a une caractéristique intéressante, qui est sa dimension curiale. C'est une scène, c'est une cour. C'est une sorte de laboratoire dans lequel on va... évidemment que Bernier, ce n'est pas un ethnographe, hein, c'est un médecin. Hein, il est employé dans l'entourage de l'empereur, en partie pour traduire des textes, hein, ou pour aider à la traduction des textes européens en persan. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Bernier, il ne va pas traduire Aristote, comme vont le faire les jésuites ailleurs, et il va traduire Descartes, il va traduire Gassendi, ou il va faire traduire Gassendi, etc. Donc, on a affaire aussi, dans la stratégie de communication de Bernier, à quelqu'un qui écrit... Il y a une dimension politique, hein, il y a une philosophie politique à destination de cette monarchie qui veut faire quelque chose sans trop savoir quoi. Et Bernier, il donne l'image, voilà, d'une success story. Voilà, l'empire indo-persan, c'est une réussite. Il y a une grandeur, et cette grandeur, elle repose sur quoi? Sur une forme de cosmopolitisme savant. On a des musulmans, on a des savants hindous, on a des Européens. On a toutes ces traditions, hein, qui convergent, et donc c'est une représentation. Voilà, enfin, pour moi, c'est un message adressé au jeune Louis XIV. Attention, ne refermez pas sous volonté d'absolutisme, ne refermez pas complètement la chape idéologique, hein, sur laquelle vous êtes en train de parce qu'on est juste après la Fronde, etc. On est vraiment une sorte de reprise en main du pouvoir royal. Contre les dissidents politiques, etc. Donc Bernier, il a vraiment cet intérêt pour moi. J'ai vraiment pas épuisé la question. Une chose qui m'a intéressé, c'est les archives que déjà Sanjay Subramaniam avait signalées aux Archives nationales, où on découvre un mémoire de Bernier, hein, adressé à la Compagnie des Indes, qui vient juste de s'établir quelques années avant en Inde, et il fait un rapport. Voilà ce qui se passe à la cour du Grand Mogol. Voilà la liste des personnages qu'il faut approcher. Attention, les uns, il faut leur offrir tel type de cadeau, les autres, méfiez-vous, celui-là, c'est quelqu'un de très jaloux, etc. Donc, enfin, une sorte de... de description comme ça, et surtout il indique quels sont les biais en fait diplomatiques à adopter pour que la France soit bien vue, hein, en cour, hein, dans la cour à Agra, dans la cour du grand Mogol. C'est donc voilà, c'est très intéressant parce que finalement ce mémoire il n'a pas été publié. Et alors, il a été publié une fois à la fin du 19e siècle, mais bon, à mon avis, dans une mauvaise édition, pas savante, etc. Et c'est vraiment un travail, c'est vraiment un texte très intéressant parce que là, on découvre un autre Bernier, d'une certaine manière, le moins savant, mais plus proche des intérêts français, voilà, de ses intérêts commerciaux français et diplomatiques. Voilà, homme de pouvoir, en fait.
Et figure d'expert aussi, d'une certaine
manière. Exactement.
Un autre voyageur tout à fait fascinant est le naturaliste, aujourd'hui peut-être un peu oublié, en tout cas du grand public, Joseph Piton de Tournefort. Tournefort, qui est lui un savant bien en place, au Jardin Royal des Plantes, comme à l'Académie des Sciences, et qui va voyager au Levant au tout début du XVIIIe siècle, entre 1700 et 1702, dans le cadre d'une mission scientifique qui est soutenue par le roi. Mais Tournefort ne se contente pas d'herboriser et de passage dans l'île de Mykonos, il assiste à l'exhumation du cadavre d'un homme dont la population locale est persuadée qu'il revient la hanter sous la forme d'un vricolacas, c'est-à-dire d'un vampire. Et j'aimerais, pour donner un peu de chair aussi à tout cela, lire un extrait du récit de Tournefort que vous citez dans votre livre. Le dixième jour, on dit une messe dans la chapelle où était le corps, afin de chasser le démon, que l'on croyait s'y être enfermé. Ce corps fut déterré après la messe et l'on se mit en devoir de lui arracher le cœur. Le boucher de la ville, assez vieux et fort maladroit, commença par ouvrir le ventre au lieu de la poitrine. Il fouilla longtemps dans les entrailles sans y trouver ce qu'il cherchait. Enfin, quelqu'un l'avertit qu'il fallait percer le diaphragme. Le cœur fut arraché avec l'admiration de tous les assistants. Le cadavre, cependant, puait si fort qu'on fut obligé de brûler de l'encens. Mais la fumée, confondue avec les exhalaisons de cette charogne, ne fit qu'en augmenter la puanteur et commença à déchauffer la cervelle de ces pauvres gens. Leur imagination, frappée du spectacle, se remplit de visions. On s'avisa de dire qu'il sortait une fumée épaisse de ce corps. Nous n'osions pas dire que c'était celle de l'encens. On ne criait que « Vrucolacas » dans la chapelle et dans la place qui est au devant. C'est le nom qu'on donne à ces prétendus revenants. Le bruit se répandait dans les rues comme par mugissement et ce nom semblait être fait pour ébranler la voûte de la chapelle. Plusieurs des assistants assuraient que le sang de ce malheureux était bien vermeil. Le boucher jurait que le corps était encore tout chaud, d'où l'on concluait que le mort avait grand tort de n'être pas bien mort, ou pour mieux dire, de s'être laissé ranimer par le diable. C'est là, précisément, l'idée qu'ils ont d'un vrucolacas. On faisait alors retentir ce nom de manière étonnante. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être commenter cette description et nous dire ce qui s'y joue, et peut-être plus généralement, en quoi les épidémies de vampirisme dont vous parlez et dont sont témoins les voyageurs produisent des effets épistémologiques ou autres au sein de l'Europe savante.
Alors, Piton de Tournefort, c'est un naturaliste. Hein, donc, lui, c'est un médecin. Il a l'habitude... il est là pour faire des inventaires naturalistes. Hein, donc, toute sa description, elle appartient à un genre qu'on appelait à l'époque moderne le genre de l'historia, de l'histoire naturelle. Et qui était un genre qui était plutôt tourné vers l'étude des singularités. Et ça s'opposait, donc on opposait traditionnellement depuis l'Antiquité historia à scientia, qui était plutôt le savoir des généralités. Donc là, on est typiquement, pour moi, au cœur de l'épistémologie, si on veut dire employer un grand mot, de ces libertins. Parce que voilà, ils ont une philosophie qui est une pensée par cas. Hein, typiquement, on va utiliser une anecdote qui fait sens. Qui fait sens pourquoi ? Pour dénoncer quoi? Pour dénoncer les superstitions, bien sûr. Ça, c'est quand même un thème qui est régulièrement attaché à la pratique libertine. Il faut déniaiser. Il faut désabuser les opinions en montrant, donc en révélant. Donc là, on a vraiment ce dispositif du dévoilement à travers une scène qui est à la fois comique, parce que le rire libertin, c'est vraiment essentiel. Parce que bon, tout ce que j'ai dit était très sérieux, on peut donner l'impression que... Mais en fait, on rit beaucoup en travaillant sur les libertins, parce qu'ils ont ce sens de l'humour très particulier, un peu ironique, etc., un peu décalé. Et là, on voit bien qu'on met à distance deux choses. Alors, la religion des orthodoxes, hein, qui est évidemment, pour les jésuites, une religion de superstitieux, hein, parce que, bah, voilà, justement, à cause du schisme, hein, ce sont des arriérés, en fait, hein, ils n'ont pas suivi le bon train. Et puis, donc là, on se moque. Vous voyez, le récit, en fait, est comme une poupée russe, en fait. Hein. On voit qu'à un second degré, on se moque des récits que font les jésuites des croyances populaires, hein, sur ces îles grecques. Et puis, il y a quelque chose de très... Donc, il y a tous ces détails anatomiques, hein, qui mobilisent les sens, la sensibilité, de l'autopsie, hein, qui est fondamentale dans les savoirs libertins, à l'odorat, etc. Le oui-dire aussi, évidemment, qui est très important. Donc, là, on voit bien que comment, en fait, cette épistémologie, elle se fond dans des savoirs spécifiques. Là, en l'occurrence, c'est la médecine. Mais ça peut être le savoir du magistrat. Dans d'autres cas, ça peut vraiment être quelque chose de beaucoup plus juridique. Dans d'autres cas, bon, comme je l'ai dit, ça peut être sur des éléments qui tournent autour des chimies orientales, voilà, des savoirs géologiques, etc. On voit bien comment, là, alors ce qui est intéressant, autour de ce cas tournefort, c'est la naturalisation, d'une certaine manière, du regard libertin. Chez Bernier, il est beaucoup plus culturel, même si Bernier est un médecin. Là, on voit bien comment ce qui compte, c'est de faire une histoire naturelle des superstitions, qui est un projet aussi qui a les faveurs de beaucoup de savants au tournant des 17e et 18e siècles, pour sortir justement de la chasse aux sorcières, du surnaturel, etc. On va en faire une approche scientifique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que est-ce qu'ils croyaient aux vampires ou pas? Ouais, on descend encore plus dans les. Ce qui est intéressant dans le cas de l'île de Mykonos, hein, c'est que c'est la frontière de civilisation entre l'Empire ottoman, hein, et la Méditerranée, on va dire chrétienne, en l'occurrence orthodoxe. Ce vampire, à un moment donné, on va quand même se. On va se demander s'il n'est pas turc, quand même. Hein, voyez. Et alors, dans tous les cas de vampirisme qu'on a pu étudier en Europe du début du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle, on a effectivement cette frontière religieuse qui apparaît. Que ça soit dans l'Europe des Habsbourg, l'Europe balkanique, hein, frontière, voilà, entre musulmans... espace musulman et espace catholique de reconquête, en plus, on voit que ces morts-vivants apparaissent. C'est la même chose pour l'Italie du Sud, etc. Donc, il y a une sorte, effectivement, on dit épidémie, voilà, de vampirisme. Évidemment, c'est un peu exagéré, mais ce terme, c'est vraiment pour montrer que voilà, cette croyance dans les vampires, elle précède, vous l'avez bien compris, Dracula. Mais en fait, d'ailleurs, dans Dracula, dans l'une des dernières Dracula Untold, un des derniers films de Dracula, on nous rappelle que le mythe de Dracula naît justement parce que Dracula, en fait, aurait été un mercenaire à la solde de l'Empire ottoman. Donc, vous voyez, c'est une histoire qui est assez intéressante parce que c'est une des grandes fractures de l'Europe, en fait. Et la Méditerranée, là, on voit que c'est au cœur des enjeux de conquête, hein, pour Louis XIV, qui se rêve en Alexandre. Hein, évidemment, il cherche partout à ramener un obélisque de Pompée, il veut collectionner des pièces à l'effigie d'Alexandre. Il y a cette obsession des rois de France pour l'Orient à ce moment-là qui est vraiment forte.
Merci beaucoup. Le troisième voyageur que j'aimerais évoquer avec vous est un petit peu différent, un petit peu particulier, car il ne s'agit pas d'un individu, mais d'un objet. Et un objet qui voyage d'Orient en Occident et qui occupe une place importante dans la dernière partie de votre livre, consacrée à ce que vous appelez une culture matérielle subversive, notamment aux collections de manuscrits et collections d'objets rapportés par les voyageurs antiquaires. Alors cet objet, c'est le lingam. Pourriez-vous nous rappeler de quoi il s'agit et en quoi il est emblématique d'une nouvelle forme de curiosité, peut-être cette fois-ci libertine dans un sens un peu plus moderne, qui semble apparaître plutôt au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Voilà, alors donc le lingam, donc, c'est un culte, alors il fait partie de ce qu'on appelle les cultes phalliques, un culte de la fécondité, hein, qui existait donc là en l'occurrence autour de la déesse Shiva, mais qu'on trouve en fait dans un certain nombre de civilisations, en Égypte, chez les Romains avec le priapisme, etc. Donc ces libertins commencent à développer l'idée que, ok, il y a eu un universalisme des cultes, il n'est pas catholique en fait. Il serait plutôt phallique ou autour. Alors vous voyez le côté scandaleux de cette proposition, hein, qui va faire vraiment couler beaucoup d'encre et qui va permettre aussi à ces libertins d'avancer sur le terrain de la censure. Parce que, évidemment, quand vous collectionnez des objets, vous n'écrivez pas des textes. On ne peut pas vous censurer. Ben non, on m'a envoyé tel objet. Voilà. Alors, c'est des petits objets, généralement sexuels, en fait, hein, voilà, qui représentent des organes sexuels. Et où on collectionne des estampes aussi, qui représentent. Voilà, ces estampes, ces gravures indiennes, etc. Donc, voilà, il y a dans ces réseaux tout un collectionnisme d'objets, de reliques sexuelles qui va leur permettre de se retrouver entre eux, hein, de se reconnaître, hein, bien sûr, en Europe. Il n'y a pas qu'en France, hein, il y en a en Italie, il y en a en Angleterre, bien sûr. On va trouver des collectionneurs, j'en ai trouvé au Brésil, voilà. C'est quand même, voilà, on peut tracer comme ça toute une communauté de gens qui se réclament, donc ils sont athées, bien sûr, et ils se réclament d'une forme de panthéisme. Voilà. Donc ils sont fascinés par des cultes primitifs. Voilà, et il va y avoir, sous la Révolution française, un dictionnaire des athées, dans lequel on va trouver un article sur le lingam. Voilà, donc c'est un peu ces objets un peu fascinants. On va avoir du mal ensuite au 19e siècle à savoir que faire de ces objets. donc on ne sait pas trop quoi en faire. Hein. Voilà, le musée Guimet qui va ouvrir dans les années 1860 va d'abord les cacher dans la réserve, puis après on va les mettre dans le jardin, mais sans trop expliquer ce qu'on y voit. Donc on a des belles photos, hein, de lingam en plein milieu de la cour du musée Guimet. Mais vous voyez, entouré de fougères, voilà. Bref, donc c'est assez intéressant parce que aussi ça va être une épine dans le pied des orientalistes français qui veulent faire science, voilà, au 19e, au 20e siècle. Effectivement, ce collectionnisme est un peu embarrassant.
Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a eu un bel échantillonnage de ces différents voyageurs, même si le dernier est un peu étonnant et atypique. On a encore peut-être le temps pour deux questions. J'aurais une question qui a trait en fait à la spécificité française de tout ce que vous nous avez si bien décrit. Votre livre prend pour objet un certain nombre d'expériences de dépaysement, de décentrement, mais qui, pour la plupart, s'opèrent par rapport à ce qu'on pourrait appeler un référentiel français, ou même peut-être parfois, très souvent, un référentiel parisien. Alors, est-ce que c'est tout simplement, au fond, un choix de votre part, de vous être limité à ce cas français, ou est-ce qu'il faut se dire et penser qu'il existe peut-être une spécificité, une exception française en matière de voyageurs du doute? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à cet égard?
Alors ça a été, ça m'a beaucoup taraudé parce que j'aimais pas trop l'idée que nous, les Français, on aurait un rapport particulier au libertinage. Ça, c'est des choses qu'on lit beaucoup, en particulier chez nos collègues anglophones, hein, qui voient vraiment là, ah bah oui, c'est la Frenchness. Ils sont tellement français, regardez. Et donc, évidemment, on a plutôt envie de fuir cette problématique. En même temps, pour moi, en étant français, le livre a été en grande partie écrit quand j'étais en poste à l'étranger. Et pour moi, c'était quand même important de dire que on peut faire une histoire du French Global. Voilà. Et qu'il ne fallait pas non plus s'interdire parce qu'on était français, parce qu'on... Bon, voilà, alors le French Global, ça a été un mouvement très présent en littérature comparée, donc il y a une quinzaine d'années, voilà, bon, qui a donné lieu à un livre, etc., qui essayait justement de sortir, alors peut-être en prenant plus en compte des problématiques liées à la francophonie, à la langue, voilà. S'il y a un monde français, ce monde français, il déborde la question coloniale. Voilà, il est aussi, ça circule. Ces voyageurs du doute, ils témoignent quand même beaucoup de ça. J'ai beaucoup parlé des empires, mais ils vont au-delà des empires. Et donc, on est au-delà du colonial. Et en même temps, ce French Global, quand on veut voir des équivalents dans d'autres empires, on en trouve. Voilà. Donc j'ai des collègues, du coup, brésiliens, espagnols, ils m'ont dit, mais nous, voilà, ils m'ont envoyé des... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se reconnaissent comment? Souvent, c'est parce qu'ils ont acheté ces voyageurs du doute, ils les lisent. C'est une communauté quand même de lecteurs, hein, c'est une communauté interprétative, hein, d'une certaine manière, de gens qui se lisent. Et ça, ça m'a bien plu, le côté communauté de lecteurs. Donc, du coup, c'est vrai que cet exceptionnalisme français, il faut à la fois le prendre au sérieux et en même temps essayer de le situer. D'essayer de pas tomber quand même complètement dans le piège du culturalisme, de la Frenchness. Voilà, alors il y aurait la gastronomie, puis le libertinage. Ça serait nos deux, nos deux produits d'exportation. Bon, voilà. C'est, quand on le dit comme ça, tout d'un coup, on se dit, oui, c'est franchement ridicule. Et donc, voilà, pourquoi ça serait pas aussi ridicule pour les périodes anciennes et puis aussi, il faut pas les laisser dire que il y aurait que des pays catholiques. Hein, voilà, il y a aussi du libertinage en pays protestants. C'est aussi quelque chose d'important parce que dans la vision puritaine, dans la dénonciation puritaine du libertinage, effectivement, on nous renvoie à une incrédulité qui serait justement française. Et donc, par exemple, du coup, j'ai beaucoup travaillé sur l'Amérique du Nord depuis quelques années. Et puis, voilà, je me rends compte que les grands lecteurs de ces Français, ils sont à New York, ils sont à Philadelphie, ils sont à Boston, ils sont dans des espaces, ils sont pas du tout catholiques. Voilà, donc à poursuivre.
Merci beaucoup. Alors, je précise avant de poser ma dernière question que nous avons essentiellement abordé avec Bernier, Tournefort, le Levant, l'Orient, mais que dans votre livre, il est question, vous l'avez un petit peu évoqué à travers la figure de la Hontan, il est question de la Nouvelle-France, il est question aussi de la Laponie de Régnard, de l'Italie de Sade. Donc cet altermondialisme, il regarde dans différentes directions, hein, il est différemment orienté. Mais ma dernière question, elle a trait à Montaigne, puisque cet entretien prend également place dans le cadre du mois Montaigne. Donc je me dois un peu de vous demander quelle est l'importance de Montaigne pour les auteurs que vous avez étudiés. Montaigne est peut-être aussi son disciple, entre guillemets, Pierre Charon, hein, qui avait eu ce projet un petit peu bizarre de réécrire, de mettre de l'ordre dans les essais de Montaigne, en fait, de le réécrire, mais de façon plus ordonnée. Alors, quelles sont les places respectives de Montaigne et peut-être Charon dans l'univers intellectuel des voyageurs du doute?
Alors, c'est vrai que j'ai commencé l'enquête comme un spécialiste du XVIIe siècle. Donc, c'est vrai que le XVIe siècle, quand on est historien, c'est un autre monde. Voilà. C'est un autre monde documentaire, c'est un autre univers culturel aussi. Et donc, on est assez timide quand on vient des périodes postérieures. Donc, c'est vrai que Montaigne, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, alors j'ai fait ces efforts. Et puis, j'ai renoncé finalement à commencer avec Montaigne. Mais j'ai essayé de trouver des moments dans le livre. C'est la raison pour laquelle je commence par Lévi-Strauss, lisant Montaigne, en fait, pour dire, effectivement, cette anthropologie sceptique, elle doit beaucoup au legs, à la formule, en tout cas dans le monde français, au legs intellectuel de Montaigne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on dit legs, on pourrait dire c'est les idées qui circulent, et c'est vrai, mais c'est vraiment un héritage quasiment matériel. Bon, vous parliez tout à l'heure de la question aussi, puisqu'on est à Bordeaux, de ces filiations vraiment tangibles, quoi, de Montaigne, de Montesquieu. Ici, je pense que c'est très important. On parle de Pierre Charon, on pourrait parler de Mademoiselle de Gournay, voilà, qui est un autre jalon dans cette filiation, dans cette transmission, en fait, de l'héritage montaignien. Puis après, j'ai travaillé sur Descartes, donc là, Descartes recopie, on peut le dire. Voilà, il y a des phrases entières de Montaigne dans le discours de la méthode. Et puis, évidemment, Lamothe-Leveillère, lui aussi, fait partie liée à de Gournay. Voilà, il y a vraiment cette transmission, on peut dire, presque amicale ou filiale de l'héritage de Montaigne dans les premières décennies. Et puis, à un second niveau, il y a un héritage intellectuel, bien sûr, dans la conceptualisation, il est certain, et c'est la manière, pour identifier ces voyageurs du doute, j'ai constitué une sorte de grammaire, de répertoire de thèmes et de tropes, et voilà, de manière d'écrire, de figure de style, etc. Je me suis constitué mon petit viatique, voilà, pour pouvoir ensuite, dans les archives, être capable d'identifier des libertins, des voyageurs du doute. Et parce que j'avais pas, justement, je voulais pas partir d'une liste canonique, hein, d'auteurs. Bien sûr que je l'ai fait dans certains cas, parce qu'il ne faut pas les oublier, Fontenelle, Bernier, etc. Et c'est très important de les lire. Mais je pense que c'est aussi intéressant de découvrir d'autres figures plus ordinaires, d'une certaine manière. Et aussi, avec cette idée d'une posture, ça, je pense qu'on est vraiment dans la mobilité montaignienne, c'est-à-dire que on n'est pas dans un rapport purement doctrinal à la question du scepticisme, à la question du libertinage. On est dans une manière assez mobile d'endosser, en fait, cette posture dans le cadre d'une pratique de la curiosité, d'un regard anthropologique, d'une manière de concevoir les objets, de concevoir les corps. Si on revient à Dominique Branchet, voilà, le regard médical. Voilà, Montaigne, c'est une sorte de réservoir, en fait, qui permet à ses auteurs, picorant de ci, de là, dans cette boîte à outils, hein, de produire, en fait, ses savoirs. Récemment, il y a un critique philosophe qui m'a éreinté. Voilà, le livre ne lui a pas du tout plu. Et surtout, ce qui m'a étonné, c'est qu'il a dit « Les sceptiques ne produisent pas de savoir, ils ne produisent pas de science. » Point. C'est la position, vraiment, je dirais, orthodoxe. Et alors, pour nous, c'est un peu embêtant, parce que qu'est-ce qu'on fait avec tous ces auteurs? Alors, on les relègue du côté d'une posture un peu de commentateur du monde. Mais à mon avis, ils sont plus que ça. Voilà. C'est un engagement dans le monde. Et quand je disais, oui, ils sont dans la machine coloniale, ils sont dans la monarchie, ils servent, hein. Ils sont serviteurs du roi, ils sont conseillers du prince, ils veulent pas être... Certains se replieront dans leur bibliothèque, mais la plupart d'entre eux, c'est pas leur cas. Ce sont des experts, voilà, voilà, exactement. Ce sont des experts. Voilà. Alors aujourd'hui, on a peu d'experts sceptiques, libertins,
heureusement.
Mais à l'époque, les choses étaient beaucoup moins cadrées. Il n'y avait pas encore l'ENA ou des grandes écoles pour former ces experts. Et on voit bien comment on font. Ils font flèche de tout bois. Et cette culture léguée par Montaigne, c'est une tradition qui est vraiment heuristique pour eux, voilà. Pour articuler un regard sur le monde et l'action. Et je pense que c'est vraiment, faut pas perdre de vue l'action, voilà, chez ces auteurs. Donc, on peut me reprocher, bien sûr, le fait de pas avoir fait une histoire doctrinale, mais c'était pas du tout le projet. Moi, je suis pas philosophe. Mais je trouverais dommage qu'on dise de ces sceptiques qui sont simplement dans une position un peu frivole par rapport au monde, ou même une position de spectateur. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Merci. Un texte qui serait intéressant d'inscrire dans cette archéologie du voyage sceptique, c'est le journal de voyage de Montaigne. Il ne pouvait pas être connu à l'époque parce qu'il est demeuré à l'état manuscrit jusqu'au XVIIIe siècle, mais que j'avais constamment à l'esprit en lisant certaines pages de votre texte. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir répondu de façon si passionnante et stimulante à mes questions et de nous avoir donné vraiment l'envie, sans aucun doute, de dévorer votre livre. Merci.